Dieu Tout-Puissant, tu as daigné nous prendre pour toi, pour ton sacerdoce. Tu nous as choisis alors que nous étions complètement étrangers à ta sainteté. Tu nous as consacrés à toi-même par ton Saint-Esprit. Permets que nous donnions, que nous nous donnions complètement à toi en sacrifice. Que nos vies soient tout entières à ton service. Que par nos efforts et nos travaux, ce soit toi qui te glorifies en nous. Que ceux qui nous voient puissent voir que tu nous as intégrés au corps du Christ, ton Fils unique. Lui seul est le chef, la tête du corps. Il est notre perpétuel grand prêtre. Permet que nous devenions participants à ce sacerdoce par lequel tu as voulu l'honorer. En nous associant à ton Fils, glorifie ton nom dans le corps tout entier, comme il est déjà dans la tête, Christ. Amen.
Donc, lecture des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 27. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait d'assez nombreux disciples, Paul et Barnabas repassèrent par Lystre, Iconium et Antioche. Ils y affermissaient le cœur des disciples et les engager à persévérer dans la prière, dans la foi. Il nous faut, disait-il, passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens, firent des prières accompagnées de jeûnes, et les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Traversant alors la Pisidie, ils se rendirent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Pergé, puis descendirent à Attalia. De là, ils firent voir vers Antioche leur point de départ, où ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et raconter tout ce que Dieu avait réalisé avec eux et surtout comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi.
Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendit du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait : voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples et lui sera leur Dieu, qui est avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit : voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit : écris ces paroles, sont certaines et véridiques.
Alors, si nous croyons cela, on peut chanter le 538 « Alléluia, Jésus est roi ». Alors, on va écouter le texte de l'Évangile dans Jean, au chapitre 13. Et c'est pour cela qu'il y aura la Sainte-Cène après la prédication, car nous avons là le récit de Jean, du dernier repas de Jésus. Il le raconte de façon très différente des autres évangiles. Donc Jean 13, versets 12 à 35. Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi, en vérité, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux, si du moins vous le mettez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ce que j'ai choisi, mais qu'ainsi s'accomplisse l'Écriture, celui qui mangeait le pain avec moi, contre moi a levé le talon, je vous le dis à présent, avant que l'événement n'arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyiez que je suis. Et là, dans ma traduction, « je » avec un « J » majuscule, « suis » avec un « S » majuscule, « je suis ». En vérité, je vous le dis, recevoir celui que j'enverrai, c'est me recevoir moi-même. Et me recevoir, c'est aussi recevoir celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en esprit, et il déclara solennellement, « en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. » Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandant de qui il parlait. Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. Simon-Pierre lui fit signe, demande de qui il parle. Se penchant alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et il la donna à Judas Iscariote, fils de Simon. C'est à ce moment, alors qu'il lui avait offert cette bouchée, que Satan entra en Judas. Jésus lui dit alors, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensèrent que Jésus lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête de Pessah, de Pâques, ou encore de donner quelque chose aux pauvres. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement. Il faisait nuit. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. » Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir, à vous aussi maintenant, je le dis. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Nous voyons donc ici une partie du récit du repas que Jésus prend avant sa mort avec les siens. Et dans la façon dont Jean nous raconte ce repas, il y a deux choses. Il ne mentionne pas la Sainte Cène, mais il mentionne le lavement des pieds et il mentionne aussi cette bouchée que le Seigneur trempe et donne à Judas. Il n'y a que le disciple que Jésus aimait qui comprend qu'à travers ce geste, Jésus connaît le dessein de Judas, le projet de Judas, qui était de le livrer. Et le texte nous fait réfléchir par l'affirmation forte de Jésus. Quand Judas est sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. » Tout d'un coup, il parle de lui en utilisant cette expression à la troisième personne, « Le Fils de l'homme ». Il emploie une dizaine de fois cette expression dans l'évangile de Jean, beaucoup plus souvent dans les synoptiques Matthieu, Marc et Luc. « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. » Et ce qui est étonnant, c'est que si on cherche dans le livre de Daniel quelle est la caractéristique principale du Fils de l'homme que Daniel a vu sur les nuées, la caractéristique principale, c'est quand il devient visible, il est avec les nuées, donc il vient du ciel, eh bien, il y a un jugement. Les livres sont ouverts et toute l'humanité passe en jugement. Or, ici, il n'y a que de l'amour qui est exprimé. Nous connaissons l'identité de celui qui a livré Jésus, Judas, fils de Simon Iscariote. Si c'est précisé comme ça à chaque fois, c'est parce qu'il y a un autre Judas qui est resté disciple, qui a vu le Jésus ressuscité. C'est celui qui nous a écrit l'épître de Judas. On dit Jude, mais si vous regardez en grec, c'est Judas aussi. Il y avait deux Judas. Et pour les distinguer, donc on a cette précision ici, Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Jésus, en donnant une bouchée trempée à Judas, fils de Simon, Iscariote, il l'intègre dans son amour. Parce que si vous regardez dans l'Ancien Testament, dans Ruth, chapitre 2, verset 14, c'est le geste que fait Boaz pour accueillir favorablement Ruth, qui est une étrangère pour lui, puisqu'elle vient du pays de Moab, pour lui signifier qu'elle est accueillie sans aucune restriction, il lui donne la bouchée trempée pendant le repas. Et c'est ce geste que Jésus fait pour montrer combien il aime Judas. Que Judas fait partie de ceux qu'il aime, qu'il connaît son projet, il le connaît, et ça ne l'empêche pas de l'aimer. C'est après qu'il y a ce commandement, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc c'est la gloire de Dieu que Jésus vient de manifester en montrant l'amour même pour Judas, fils de Simon Iscariote, qu'il connaît. Il sait que c'est lui qui va le livrer. Et il dira à Pilate, Pilate qui a peur de commettre un péché en laissant condamner un innocent, Jésus lui dit, mais celui qui m'a livré à toi commet un plus grand péché que toi. Mais Jésus aime Judas et il le lui montre. Il nous manifeste ainsi dans ce monde l'amour du Père. Et c'est ce qui explique pourquoi, aussitôt après avoir dit que maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié par lui, Jésus dit « mes petits-enfants ». Tout d'un coup, il appelle ses disciples « mes petits-enfants ». C'est la première fois qu'il les appelle comme ça, parce que, ayant montré l'amour du Père, il parle comme s'il était à la place de Dieu le Père. Il est tellement proche, tellement intégré dans l'amour du Père, Il appelle les siens mes petits-enfants. Il les a engendrés de la vie d'en haut par l'amour inconditionnel qu'il a manifesté dans ce monde et qui continue à manifester, mais il veut le faire aujourd'hui à travers les siens. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, c'est cet amour-là que vous devez maintenant manifester entre vous. Ainsi le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Dimanche dernier, vous avez entendu la prédication sur le fait que Jésus est vraiment homme, il est aussi vraiment Dieu. Nous voyons cela aussi dans notre passage. Là, je viens de vous dire qu'il a vraiment manifesté l'amour de Dieu le Père. Il a vraiment glorifié Dieu, révélé Dieu le Père par cet amour qu'il donne à Judas, qu'il manifeste à Judas. Où est-ce qu'on voit son humanité ? Dans le fait qu'il est troublé quand il reçoit en esprit la révélation que Judas va le livrer. On nous dit, Jésus, au verset 21, Jésus fut troublé dans l'esprit. Alors certains disent intérieurement, traduisent intérieurement, d'autres exégètes disent non, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient de lui révéler que ça va maintenant se passer, maintenant que Judas va sortir, le livrer pour de l'argent d'ailleurs. Et Jésus est troublé. Ce verbe est très important parce qu'il, dans l'évangile de Jean, Jésus est troublé 4 fois. On nous le dit 2 fois avant la résurrection de Lazare. Jésus a été troublé. Il a aussi pleuré. Et là encore, on voit son humanité. Car un Dieu ne pleure pas, mais un homme pleure, oui. Parce que l'être humain est devant des contradictions et qui est insoluble parfois. Et il n'a plus que les yeux pour pleurer. Eh bien, Jésus a pleuré, il a montré son humanité dans cette résurrection de Lazare. Et en même temps, il a montré sa divinité. Voyez ce que l'Église a traduit avec des dogmes. Jésus est à la fois homme et Dieu, on nous le répète sans arrêt au catéchisme. L'Évangile nous le dit à travers des événements. C'est pas juste comme ça une vérité, comme si j'admets cette vérité sans rien y comprendre, je serai sauvé. Non, c'est à travers ces événements qui se sont vraiment passés, qui ont définitivement été inscrits dans l'histoire de ce monde, que se passe notre salut. Que Jésus, à la fois homme et Dieu, et il nous intègre à sa propre vie de fils de Dieu. Nous voyons ici donc Jésus troublé et par ce qui va se passer. Et en même temps, on voit combien il maîtrise ensuite l'événement en prenant l'initiative, en disant à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Et Judas obtempère, il le fait vite, il sort immédiatement. Donc Jésus montre en même temps là, sa divinité. En même temps, on voit l'humanité réelle de Jésus et en même temps, sa divinité. Nous adorons Jésus, nous prosternons devant quelqu'un qui est mort comme un homme. Mais dans cette mort, nous voyons Dieu. Nous voyons l'amour de Dieu, nous voyons la nature de Dieu qui est d'être un père pour chaque être humain, y compris pour des Judas. Aujourd'hui, nous avons très peur de ce mot de Judas, mais je vous signale que Jésus est issu de la tribu de Judas, que c'est un nom très, très beau. Ça veut dire celui qui loue Dieu et qui a donc aussi, comme j'ai dit, un autre disciple qui s'appelle lui aussi Judas. Jésus, on voit aussi sa divinité dans le récit Dans l'événement, comment se passe ce dernier repas? On voit sa divinité dans le fait qu'il annonce à l'avance ce qui va se passer. Je vous le dis à présent, c'est le verset 19 que je relis, avant que l'événement arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez que je suis. Eh bien là, on a une allusion très claire à des textes qu'on trouve dans Ésaïe surtout, où Dieu, pour préparer son peuple à retrouver la foi, sa foi qui était presque comme une mèche de bougie qui est en train de s'éteindre, vous voyez. C'est l'image qui est utilisée dans le livre d'Ésaïe. La foi est en train de s'éteindre comme une mèche de bougie. Et puis Dieu va la rallumer, cette foi. Comment il rallume la foi? Très souvent dans Ésaïe, Dieu annonce à l'avance des événements et il dit maintenant, quand ces événements se seront accomplis, que vous les aurez vus de vos yeux, alors vous pourrez croire que je suis, que c'est moi, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui annonce des événements, qu'on ne pouvait pas prévoir. Je vous lis un texte d'Ésaïe, c'est dans Ésaïe 43, versets 8 à 12. Que toutes les nations à la fois se rassemblent, que les populations se réunissent. Qui, chez elles, avait annoncé ces faits? Nous avait laissé entendre les premiers événements, qu'elles produisent leurs témoins et qu'elles se justifient, qu'on entende et qu'on dise « c'est digne de foi ». Mes témoins à moi, c'est vous, oracle du Seigneur. Mon serviteur, c'est vous que j'ai choisi, afin que vous puissiez comprendre, avoir foi en moi et discerner que je suis bien tel. Avant moi ne fut formé aucun Dieu, et après moi il n'en existera pas. C'est moi qui suis le Seigneur, en dehors de moi, pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et donné le salut, moi qui l'ai laissé entendre, et non pas chez vous un Dieu étranger. Ainsi, vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi, je suis Dieu. Ça c'est dans Ésaïe 43, nous voyons comment Dieu s'y prend pour extirper l'idolâtrie de son peuple Israël. On a vu que c'est en étudiant Jérémie, depuis plusieurs mois nous étudions le prophète Jérémie, on voit que c'est le problème principal auquel Dieu a affaire au sein d'Israël, c'est Dieu étranger auquel on fait confiance, et Dieu dit, voilà, maintenant je suis le seul à parler d'événements qui vont se produire, et quand vous les aurez vus, ces événements, vous me direz si vos idoles, vos dieux à vous pouvaient faire ça. Et maintenant, alors vous reconnaîtrez que c'est moi qui suis le seul, le vrai Dieu. La vie éternelle, c'est donc de connaître ce Dieu d'Israël qui dit les choses à l'avance. Et ce qu'il nous dit, Jésus, c'est que ce qui va se passer, là où il va, nous ne pouvons pas nous-mêmes y aller. Et Simon-Pierre voudra y aller par ses propres forces, Jésus dit non. Donc, tu vas essayer, mais ce sera la catastrophe. Mais nous pourrons y aller. Nous pourrons y aller parce que c'est lui qui nous aura préparé le chemin. C'est lui qui aura été dans le lieu, dans ce qui nous aura préparé le lieu où nous serons. Et dans ce lieu, ce sera notre vrai lieu, le lieu où notre identité est vraiment fixée pour toujours. Et elle est dans cette Jérusalem céleste dont nous avons écouté la venue. Elle descend du ciel, toute préparée, vous voyez, tous les textes de la Bible sont liés les uns aux autres. Elle est toute préparée. Notre lieu dans la Jérusalem céleste, il est tout préparé par Jésus. Et dans ce lieu se vivra ce même amour qu'il a témoigné au dernier repas. Cet amour qui ne tient pas compte de ce que l'autre répond ou pas à cet amour. Voilà l'amour dont Jésus a aimé Judas. Il connaissait que Judas allait le livrer et pourtant il l'a aimé. Il a été troublé, profondément troublé, blessé donc, blessé dans son âme par ce geste de Judas, mais il l'a aimé. Il a véritablement aimé, il lui a aussi lavé les pieds. Voilà ce que Jésus a fait au dernier repas. Il a glorifié Dieu et Dieu, en conséquence, va le glorifier en lui-même. Alors je me suis demandé, mais c'est quand cette deuxième glorification, hein? Il y a deux glorifications que Jésus mentionne. Il dit au verset 31, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, Dieu s'est glorifié en lui. » On peut traduire comme ça, où Dieu a été glorifié par lui. Et verset 32, « Dieu le glorifiera donc en conséquence en lui-même, et aussitôt il le glorifiera. » Il y a une deuxième glorification. C'est ce moment de la croix, la deuxième glorification. Jésus, le Fils de l'homme, a été glorifié au dernier repas, et le Père l'a glorifié en lui-même, sur la croix. Le Père l'a glorifié, cette croix, elle est aussi dans le ciel. Parce que dans l'Apocalypse, nous voyons que l'adoration dans le ciel, c'est le Père qui est sur le trône, et dans le trône, il y a l'agneau. C'est Jésus sur la croix, l'agneau. Donc nous l'adorons dans cette glorification que le Père lui a donnée en lui-même, pour que nous, des êtres humains faillibles, qui pouvons aussi livrer Jésus, qui pouvons être, pas conséquents. Et souvent, je ne suis pas conséquent dans l'amour que j'ai reçu de Jésus. Combien de fois est-ce que je réponds à cet amour? Eh bien, malgré cela, je sais que Jésus est mon sauveur et qu'il est le vôtre, que son amour n'est pas lié à ce que nous lui rendons, son amour est garanti. Voilà ce qui s'est passé au dernier repas, le Fils de l'homme a été glorifié, et le Fils de l'homme, sachez-le bien, quand vous lisez Daniel chapitre 7 qui nous parle du Fils de l'homme, vous voyez que c'est pas juste une personne, c'est tout un peuple. Tout un peuple, le peuple des saints, qu'on appelle le peuple de Dieu, nous sommes inclus dans le Fils de l'homme par la participation au dernier repas et nous recevons cet amour qu'il vient de Dieu et que lui-même nous donne de donner à notre tour les uns envers les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il ne s'agit pas d'imiter Jésus. C'est une fausse façon de comprendre le commandement de Jésus. Ah, je vais essayer de faire comme Jésus. Ah ben non, ça marche pas. L'amour dont Jésus nous parle, c'est pas un amour qu'il faut imiter, c'est un amour de fondation. Il fonde notre vie dans cet amour. Et si notre vie est fondée dans l'amour de Jésus pour nous, alors il va se manifester dans notre vie. Et on peut toujours revenir à lui quand on a renié comme Simon-Pierre. Jésus a conforté Simon après son reniement. Il a confirmé qu'il est bien l'apôtre sur lequel il construit l'Église. Amen.